If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue à tous au 8 rue Jean Bart à Paris, où se trouvent les bureaux de la Société française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Et oui, je suis là pour préparer mon grand départ, je dis ça parce que je mesure 1m92, de la Tour Saint-Jacques le 21 mars, pour marcher 1500 km avec mon micro et mon sac à dos. Je suis en compagnie de Jean-Jacques et Jean-Jacques, comme ça c'est très pratique. Alors Jean-Jacques, quand est-ce que vous êtes décidé à faire le chemin de Saint-Jacques ?
Je m'étais un peu intéressé, ça remontait même temps d'étudiant. Je me dis, bon, si un jour je dois le faire, je le ferai en partant de chez moi, tout seul et en une seule fois. Quand vous partez avec ces trois critères-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est attendre à la retraite. Donc j'ai été à la retraite en 2012 et je suis parti en 2013. Moi, je suis parti de Paris, de chez moi, et je suis allé à Santiago par la voie de Tours, en passant par Chartres, jusqu'à Santiago et jusqu'à la mer en 80 jours. Ça a été mon Vendée Globe Challenge à moi. Aujourd'hui, on a beaucoup de pèlerins qui viennent et qui disent « Bon, on a une semaine, on va marcher une semaine cette année. » C'est très bien, je veux dire, il faut le faire. Mais je veux dire, il y a quand même un élément essentiel du chemin, qui est la durée. La première semaine, on voit toute sa vie qui redéfile. La deuxième semaine, on rentre dans toutes les églises, qui sont ouvertes, parce qu'il y en a beaucoup de fermées. Donc il y a tout un cheminement qui se fait, parce qu'aujourd'hui, se déplacer à 4 km à l'heure pendant 50, 60 ou 80 jours, c'est pas tellement commun, qui vous fait voir les choses tout à fait différemment. On finit par oublier le jour, le mois, il n'y a plus d'agenda, on se lève le matin, on marche, on rencontre des gens, on discute, on mange, on dort, on repart le lendemain matin, il n'y a pas de questions à se poser, on continue comme ça. Donc déjà au bout de 10-12 jours, il y a une espèce de transmutation qui se fait, c'est-à-dire que tout devient beaucoup plus facile. On a l'impression que, pas dire qu'on vole, mais c'est, le corps s'est fait à la marche, au sac, etc. Comme le dit le proverbe, le plus du matin n'arrête pas le pèlerin, donc on y va tous les matins.
Vous l'avez fait qu'une seule fois ?
Alors moi j'ai fait qu'une seule fois. Moi c'est un peu comme le, vous savez, le sirop de menthe, quand on rajoute de l'eau qui n'est plus diluée, ça a un peu moins de goût. Et puis moi ça a été une telle, je veux dire, découverte qu'il y a vraiment un avant et un après le chemin. Le chemin je le refais tous les jours. Je suis capable aujourd'hui, mètre par mètre, de refaire le chemin jusqu'à Compostelle dans ma tête en voyant les endroits, etc.
Moi je vais faire le même chemin que vous. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à me donner ?
Pas de conseil, je veux dire qu'il faut y rentrer le plus librement possible, il ne faut pas se mettre de contraintes, pas de réservation, pas de timing. Il m'est arrivé de faire des jours à 6 km et des jours à 40 km. C'est en fonction un petit peu de ce que l'on rencontre, de l'humeur, de la fatigue. Et petit à petit, c'est le chemin qui vous prend. Hein. Donc non, il n'y a aucune... C'est un beau chemin, il n'y a pas du tout de difficultés, il n'y a pas de dénivelé bon, jusqu'à Roncevaux. Il y a des magnifiques, certainement les plus belles églises du chemin pour ceux qui apprécient l'art roman. Et puis, on traverse des très belles régions, des régions viticoles, il y a du bon vin, parce que ça fait aussi partie du chemin, la nourriture et la boisson. On mange beaucoup et on maigrit beaucoup. C'est le chemin historique. Hein. Donc, on retrouve des entrées de villages qui n'ont pas beaucoup changé depuis le Moyen-Âge. Hein. Donc, on a vraiment l'impression de mettre ses pas dans les pas des millions de pèlerins qui sont passés avant nous.
Vous dites ça, c'est marrant, et pourtant, moi, ma crainte, c'est toutes ces zones industrielles qui sont greffées sur toutes les villes et qu'il va falloir traverser à pied. Et...
Vous avez raison, surtout cette voie-là. Donc il y a des grandes villes, il y a Tours, ça va encore, mais après, oui, vous avez Châtellerault, vous avez Saintes, etc. C'est un petit sacrifice, mais qui s'oublie vite. Bon, ça dure 2-3 km, et puis après, on se retrouve très vite dans la nature. Et après, bon, après un pas devant l'autre, c'est pas très compliqué.
Ça paraît simple. Encore faut-il marcher tous les jours pendant plus de 1500 km, comme je vous l'ai dit. Alors, pour faire passer le temps, je vais demander aux gens que je croise, les marcheurs hein, ou les sédentaires, ceux qui sont là, qui travaillent ou qui sont assis sur un banc, enfin bon, qui ont un peu le temps de parler. Quel est votre but ? Alors, quel est votre but aujourd'hui, Jean-Jacques ?
Il y a une règle sur le pèlerinage, on ne demande jamais à un pèlerin pour quelle raison fait-il le chemin. Et moi, ça m'avait un peu frustré quand j'avais mes premiers accueils chez les particuliers, parce que je dis, ils ne posaient pas de questions et du tout. Mais en fait, c'est une règle générale. Donc, un pèlerin, on ne lui demande pas, s'il ne vous le dit pas spontanément, on demandera pourquoi, etc. On sait qu'il y a beaucoup de cabossés de la vie sur le chemin, il y a beaucoup d'allumés, c'est un petit raccourci d'humanité, c'est la même chose que dans la vie normale. Hein. Il y a des gens intéressants et des gens inintéressants.
Quel est votre but, Jean-Jacques, à vous ?
Il y a eu un avant et un après chemin. Donc moi, mon seul but, c'est d'essayer de faire partager en espérant que les gens qu'on va un peu pousser sur le chemin auront le même type d'expérience. Parce que je veux dire, je vois mal comment on peut sortir complètement indemne de 80 jours de marche et de tout ce qui se passe dans le chemin. Donc, mon conseil, c'est allez-y, vous verrez, vous ne perdrez pas votre temps.
Quand on est hébergé comme ça, quelle est la coutume ? Il faut laisser un peu d'argent ?
Alors, donc, c'est ce qu'on appelle les gîtes ou les accueils en donativo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange marchand. Donc, en général, on préconise pour les gens qui sont hébergés chez des particuliers, donc pour le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner, l'équivalent d'à peu près 20 euros. Mais il y a beaucoup d'accueillants qui ne souhaitent rien du tout. Donc dans ce cas-là, c'est réellement du donativo. Et la même chose dans certaines auberges, donc où on a la possibilité de laisser ce que l'on veut. Donc le tout, c'est d'essayer d'évaluer un petit peu. Mais donc 20 euros, c'est quelque chose qui semble aujourd'hui assez couramment admis. Et sur 80 jours, sans me priver, j'ai jamais fait la cuisine moi-même, si deux fois dans deux gîtes, mais j'ai toujours mangé restaurant essentiellement le soir. Et sur les 80 jours, j'ai un budget qui devait être entre 35 et 40 euros par jour. Donc sur 80 jours, on avait 3500 euros. Retour compris de la totalité, en fait.
Parce que vous êtes revenu comment de Saint-Jacques ?
Alors je suis revenu, moi j'avais choisi de revenir lentement. Ça dure 80 jours et c'est assez lent. Et donc j'avais repéré un tortillard qui faisait Santiago-Burgos et qui en fait reprenait le chemin à l'envers. J'ai pris le train à 9h le matin à Santiago, je suis arrivé à 18h à Burgos. Et donc ça m'a fait une certaine décompression. À Burgos, j'ai attrapé le train hôtel qui fait Madrid-Paris. Et puis j'étais le lendemain matin à 9h gare d'Austerlitz.
Comment vous êtes revenu de Saint-Jacques, vous ?
J'ai trouvé une solution, enfin, pas moi, mais ma femme a trouvé une solution, c'est de venir me chercher. Elle avait pris des billets d'avion, des allers-retours, et donc elle m'a dit, ben non, mais je vais venir te chercher. Et c'est comme ça que je suis rentré, donc en avion.
Elle avait peur que vous restiez là-bas, quoi.
Ou que je revienne à pied. Non, je voulais juste dire que dans le sac, on peut mettre des objets aussi auxquels on ne pense pas. Par exemple, simplement un fil nylon que vous pouvez acheter donc, n'importe où, vous en avez chez 4 ou 5 mètres. Ça peut vous servir pour vous dépanner de lacets, ça c'est très important, parce que quand vous cassez un lacet, il faut se dépanner. Et puis surtout autre chose, c'est que ça va vous servir de fil d'étendoir aussi. Quand vous arrivez en retard dans un gîte et qu'il y a déjà beaucoup de monde, tout le fil il est pris. Donc vous sortez votre fil, ça c'est drôlement bien, vous avez toujours aussi 5 pince à linge, et puis comme ça vous permet d'avoir votre petite chose personnelle. C'est des petits détails, mais vous allez voir que c'est quand même très 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 utile. Et nous disions aussi, une petite prise multiple qui va venir vous aider dans les gîtes, parce que tout le monde se précipite sur les prises. Alors, de temps en temps, vous avez des gîtes qui sont absolument exceptionnels, même à 6 euros le gîte, en Espagne surtout, on vous fournit même des draps que vous jetez le matin. C'est des draps en papier, mais c'est quand même extraordinaire. Et là, vous avez la possibilité d'avoir une prise par lit. Mais ce n'est pas toujours comme ça, il faut le savoir.
Alors vous avez raison, car je vais avoir besoin d'électricité pour faire mes podcasts. Donc ça, il faut vraiment que je pense à la prise multiple. C'est pas le tout, mais il va falloir que j'y aille. Un dernier souvenir pour la route, Jean-Jacques ?
Après l'arrivée à Santiago, il reste 3 étapes pour arriver donc au bout de la Terre, pour aller voir le soleil qui tombe dans la mer à Fisterra. Et donc à partir de là, il y a pratiquement plus personne. Donc moi j'avais démarré le chemin, il faisait une canicule absolument horrible. Et donc devant moi, il y avait une jeune fille, toute blondinette, toute charmante. Comme on marchait à la même vitesse, on commence à discuter. Donc ça fait partie du chemin, hein, c'est la rencontre. Et donc je lui demande qu'est-ce qu'elle fait là toute seule sur le chemin. Elle me dit « Ah ben non, on était venus à plusieurs du Danemark, on était une douzaine, j'avais des copains et des copines, mais ils ont tous trouvé chaussures à leurs pieds, donc je suis toute seule, donc je finis le chemin et je rentre chez moi. » Mais j'ai déjà compris quelque chose, elle me dit « Si jamais à la fin de mes études, 28 ans, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied, je viens refaire le chemin et je suis sûr qu'à ce moment-là, je trouverai la personne qu'il me faut. »
C'est un club de rencontre, en fait, le chemin.
Non. Mais c'est la rencontre, c'est le but du chemin, mais pas forcément le club.
On a un raccourci, on dit, on voit sur le chemin des faucons pèlerins, c'est vrai, mais des vrais cons aussi. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça, malheureusement.
On m'a aussi parlé d'une addiction au chemin. Il y a des gens qui ont commencé à le faire et après, ils n'arrivent pas à en sortir.
Oui, oui, tout à fait. Le chemin, c'est un certain confort, hein, puisqu'en fait, vous avez une vie sans contrainte, vous ne vous posez pas de questions, il n'y a pas d'agenda, vous croisez des gens intéressants, vous discutez, vous mangez bien, vous buvez bien, vous dormez bien. Donc c'est difficile d'en sortir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on prépare bien le retour, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien couper pour pouvoir revenir. Mais sans ça, oui, il y a des gens qui ont une forme d'addiction pour le chemin et qui, dans un sens, dans l'autre, qui reviennent souvent, qui refont les mêmes parcours, qui repassent par les mêmes endroits.
Ouais, enfin, ça coûte quand même 3500 euros, donc il faut quand même les avoir.
On peut le faire à moins. Il y a des gens qui parlent le principe des donativos, etc. On peut le faire à beaucoup moins cher. Hein. Mais ceci dit, il y en a qui chantent, il y en a qui jouent de la flûte, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui font la manche, il y en a qui, par sympathie, tapent les autres, etc. Il y avait, comment ça s'appelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y avait quelqu'un qui en a été à 542e chemin, qui l'a fait plusieurs fois, qui en fait, qui passe sa vie sur le chemin. Donc, je veux dire, à partir du moment où 600 bien, j'imagine, il y retourne. Hein. Et donc, le problème, c'est d'en sortir.
Pour moi, le problème, c'est pas d'en sortir, c'est d'y entrer. Alors, les gens, Jacques, je vous remercie. La Société française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, merci beaucoup pour le bel écusson que je vais mettre sur mon sac à dos. Avant de vous quitter, je vous rappelle le rendez-vous. C'est le 21 mars pour le grand départ de la Tour Saint-Jacques. Et d'ici là, bah, si vous avez des amis marcheurs, n'hésitez pas à partager ce podcast et avec les amis non marcheurs aussi, parce que parfois, il y en a, ils préfèrent rester assis et écouter les autres marcher. Il n'y a pas de problème. Vous êtes tous les bienvenus et je vous dis à très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.